Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode d'Au Café Avec. Cette fois, c'est accompagné du non minéral qu'on a rencontré Alain Reist du côté de la Vaudoise Arena. Entre l'endroit où il a enflammé les foules et l'endroit où maintenant il les régale, l'ancien joueur de Fribourg-Gotteron et du LHC notamment nous parle de son après-carrière, et aussi un peu de sa carrière, hein, mais surtout de son après-carrière et comment il s'est mis à la restauration pour régaler les papilles de tous les Vaudois et même au-delà. Bonne écoute, vous verrez, ça donne très faim.
Voilà, on est à côté de la Vaudoise Arena, une patinoire que tu n'as pas connue, mais tu as connu Malais. Tu y bosses ce soir, on enregistre, on est mardi avant le match contre Ambry. Que représente l'endroit pour toi, que ce soit avant ou maintenant? Parce que en fait, tes deux métiers se retrouvent au même endroit.
Exactement, donc c'est toujours un plaisir de venir à la patinoire. Donc moi j'appelle toujours ça encore Malais parce que j'ai de la peine à dire la Vaudoise. Donc, donc ouais, il y a beaucoup de souvenirs et puis c'est vrai que ça me permet en fait, il y a pas mal de gens qui me demandent ouais, mais est-ce que le hockey te manque, est-ce que si te manque ou ça, puis le fait de venir tous les matchs à la patinoire ou venir travailler, c'est ça qui me fait que ça me manque pas en fait. Donc il y a aussi oui clairement mes gamins qui font du hockey maintenant et puis que je suis de temps en temps avec eux sur la glace, donc ça me permet de ne pas oublier le hockey puis d'être ici présent à la patie et puis j'allais revenir. Quoi.
Tu sens que tu es en train de vriller entre l'ancien hockeyeur, le hockeyeur et le restaurateur maintenant?
On va vriller, ça fait déjà un moment que j'ai vrillé parce que quand on regarde la 8e année que je fais ça, c'est la 8e saison. Et puis j'ai de la chance d'avoir pu commencer. On a commencé ici à Malais dans les stands VIP avec le tartare, donc c'est vrai que ça fait 8 ans, maintenant presque 9 ans. Et je pense que si j'avais pas fait le hockey, si j'avais pas terminé ma carrière à Lausanne, j'aurais peut-être pas pu faire ce bout de chemin que j'ai fait depuis 8 ans, parce que c'est vrai que c'est le LHC qui m'a ouvert cette porte de pouvoir faire ces tartares. Et puis et maintenant on a plein de fidèles qui viennent à chaque match, puis c'est chouette.
Revenons, ça fait quoi, 8-9 ans en arrière, quand tu arrêtes le hockey l'époque, c'était pas les contrats qu'on voit maintenant, hein, pour certains Suisses. Déjà, comment tu décides de finir? Comment tu finis? Comment tu fais financièrement aussi quand tu arrêtes? Est-ce que tu avais un petit quelque chose? Et comment s'est déroulé ce choix? Parce qu'on sait que des hockeyeurs deviennent assureurs, consultants. Et toi, c'est une voie de traverse. Comment ça s'est passé à ce moment-là?
Alors écoute, moi j'ai arrêté, j'ai eu la chance d'arrêter par ma propre volonté, donc c'est moi qui ai décidé d'arrêter. C'est pas que tu décides, enfin que tu dois arrêter sur une blessure ou sur une frustration, que tu as envie de rester ou pas dans un club. Et puis oui, j'aurais certainement eu la possibilité d'aller jouer dans un autre club, peut-être en Brie ou peut-être en Ligue B, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça faisait 6 ans que j'avais joué à Lausanne et j'avais commencé à construire un petit peu mon réseau professionnel. Et j'avais déjà commencé dans les assurances, comme tu as mentionné avant, comme tout le monde. J'avais commencé 2 ans, si tu veux, avant d'arrêter ma carrière. J'allais 2-3 fois par semaine dans les assurances. Et après la carrière, j'ai fait 2 ans à 100%. Donc j'ai fait tous mes papiers pour que ça vaille la peine et puis pour que je fasse vraiment quelque chose de concret. Et l'opportunité s'est donnée que je débute avec ces tartares. Donc c'est vrai qu'en Suisse, si tu veux, on n'est pas vraiment aidé, donc c'est compliqué. Si je regarde les salaires qu'il y a maintenant, c'est difficile de dire une moyenne, mais je pense que ça tourne autour des 300 000, 250-300 000 francs, même peut-être voire plus, je ne sais pas. Mais moi, quand je jouais, je pense que c'était autour des 130-150, mais c'était la moyenne. Donc moi, je cache jamais, hein, je gagne moins que 120 000 balles, 120 000 francs en Liga la dernière année. Donc j'ai aussi eu de la chance de pouvoir travailler directement après avec un salaire qui correspondait un petit peu au même niveau salarial. Mais je pense que les gens qui arrêtent maintenant, qui gagnent 500 000 ou 600 000, et que tu retrouves un job où tu gagnes 60 000, 70 000 balles, ouais, je pense que ça fait un petit peu plus mal. Ça fait un peu plus mal. Donc moi j'ai réussi à faire une belle carrière. J'ai fait pas mal de matchs, mais je ne suis pas venu riche parce que quand on était petit, on dépensait, puis on faisait plaisir. Et c'était pas une époque où tu gagnais 400 000 francs à moins que tu étais dans l'équipe suisse ou autre. Donc voilà, moi j'ai fait une bonne reconversion et pour l'instant ça fonctionne plus ou moins bien.
Comment ça a cheminé justement d'en arriver à faire du tartare, parce que c'est pas commun. Je suis un très bon client, j'adore ça, donc pas de soucis à ce niveau-là, mais comment avec ta femme ça a mûri, est-ce que c'est un projet commun, parce qu'on voit qu'elle elle s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, quel était le cheminement pour faire ce boulot pas comme les autres?
Alors en fait, à la base, c'était un peu une recette de famille que ma mère faisait. Et puis c'est vrai que quand tu avais des amis qui venaient à la maison, ils me disaient ah, « Pourquoi tu fais pas quelque chose avec le tartare et tout, machin ?» Et puis tout d'un coup, je suis allé une fois discuter avec le boucher du village et j'ai un petit peu expliqué mes idées pour un food truck, parce qu'un restaurant, c'était hors de question à l'époque. Et même le boucher était un peu contre cette idée de faire du tartare parce que c'est quand même compliqué, c'est hygiène, c'est quand même c'est très strict. Et du coup moi j'avais mon idée à fond et puis je me suis lancé. Donc c'est vrai qu'au début j'avais lancé ça avec un copain et au fil du temps, on a fait quelques mois ensemble, des recherches et tout. Et je me suis retrouvé seul aux commandes après quelques temps et... ma femme m'a suivi directement après aussi. Donc ça fait quand même maintenant, elle était là depuis le début, donc ça fait aussi, elle connaît tout le cheminement de l'épitaphe. Et ça fait maintenant 8-9 ans aussi qu'elle est dedans, qu'elle m'aide. Et j'ai de la chance de pouvoir bosser avec elle parce que ce serait compliqué de bosser seul en ayant des enfants à la maison. Donc là on est vraiment les deux dans le même moule, on parle de boulot à la maison. Donc c'est vrai que ça aide aussi. Voilà, on est deux et puis ça s'est agrandi un petit peu en 2019 parce qu'on a accueilli le cousin de ma femme qui est Roméo. Donc il a fait aussi l'école hôtelière, donc maintenant on est trois associés. Et puis en 2021, on a ouvert le bistrot à Étagnière, donc on a deux entreprises différentes, une avec les events et une avec le bistrot. Donc c'est vrai que c'est chouette et puis je gagne certainement moins qu'un joueur de hockey. Mais chaque matin, quand je me réveille, j'ai au moins du plaisir à aller bosser. Et puis c'est ce qui compte. Pas venir riche, mais au moins j'ai du plaisir et j'arrive à faire vivre mes enfants. Et puis c'est ce qui compte.
Tu as dû te former, parce que pour être assureur, tu as dû te former, tu avais pu t'organiser un peu en amont. Tu t'es lancé un peu d'un jour à l'autre ou il a fallu se former? Il faut quand même, tu disais l'hygiène, il y a la compta, il y a la TVA, c'est lourd quand même.
Moi, à la base, je suis charpentier de métier, donc tu vois, pas trop le rapport, mais c'est vrai que moi, j'adore cuisiner à la maison, c'est une passion, donc moi, je ne fais pas non plus de la gastronomie, moi, j'aime bien un peu les plats mijotés, un peu les plats de grand-mère, et puis au fur et à mesure, j'ai appris sous le tas, c'est vrai que quand tu te lances, on était les trois associés, puis tu apprends, hein, les RH, c'est ce qu'on voit, ce qu'il y a de plus compliqué dans chaque entreprise. On le voit maintenant avec le bistrot, donc c'est vrai que c'est pas facile à gérer, et puis... on fait au mieux, mais t'apprends tout le temps, t'as le temps. Et puis maintenant, ça fait 8 ans qu'on est là-dedans et on apprend toujours. Donc on n'est pas... on est des perfectionnistes, on adore faire le mieux possible. Et puis ce qui compte pour nous, c'est le... À la fin de l'entonnoir, c'est quand même le client qui soit satisfait. Mais pour arriver et que le client soit satisfait, il y a quand même beaucoup de derrière. Et c'est vrai que des fois, on minimalise un petit peu le boulot parce que c'est pas juste ouvrir le food truck et puis servir et refermer. Donc il y a beaucoup de boulot derrière et puis... C'est vrai qu'au début, il y en a encore plein qui nous demandaient mais est-ce que tu fais ça à 100% ? Et puis, c'est à 200% qu'on fait ça. Donc, voilà, si jamais, c'est vrai qu'on n'est pas des saltimbanques ou je ne sais pas comment il y en a des qui nous disent des fois que, voilà, avec notre remorque qui va un peu partout, mais au moins, on est à fond et puis ça marche.
Tu l'as dit, tu t'es formé dans la charpenterie, un vrai métier. Excuse-moi, moi je suis journaliste, je sais ce que dire de ne pas faire un vrai métier. Ensuite, tu es hockeyeur, où c'est un rythme de vie quand même très spécial. Déjà, avec la famille, c'est pas simple, mais tu as la chance, par rapport aux Nord-Américains, de revenir dormir toutes les nuits à la maison. Mais au niveau rythme de vie, est-ce que c'est plus compliqué aussi? Est-ce que tu as dû te réadapter? Parce que le hockeyeur, il s'entraîne, il va faire la sieste, il joue, il revient, il repart. Mais là, ça ne s'arrête jamais.
Alors écoute, je pense que par rapport au métier d'assureur, c'est vrai qu'il y a un peu des similitudes. par rapport à ce que je faisais avant. Donc c'est vrai que c'est un métier où tu bosses entre guillemets un petit peu quand tu as quand même tes heures de bureau à faire, mais tu es un petit peu assez libre. Donc moi, je cherchais un job après ma carrière qui soit flexible, où tu ne dois pas aller au bureau de 7h à 17h tous les jours, où ça soit toute la même chose. Donc là, c'était quand même assez varié. Et je pouvais un petit peu faire comme je voulais. Donc j'avais un peu certaines libertés, puis c'est ce que j'ai recherché après la carrière. Mais c'est vrai que quand on pense comme ça, moi j'ai fait 18 ans de hockey. C'était une passion, hein. C'était un métier, mais en premier lieu, c'était une passion. Et j'ai fini à 34 ans. Donc tu arrives à 34 ans, il te reste quand même après 30 ans à trouver, comme tu as dit avant, un job plus ou moins normal comme tout le monde, où tu gagnes ton argent, où c'est voilà, où ça te fait plaisir d'aller, parce que c'est pas, je pense que la plupart des gens qui arrêtent, c'est compliqué. Donc trouver quelque chose où t'es pas aidé en Suisse, c'est chaud, à moins que tu aies fait une carrière comme je peux dire de non, mais quand tu peux mettre de l'argent de côté et que tu fais pas le con, quoi. Ouais.
Il y a quand même quelque chose qui suit, que ce soit de l'assurance ou la restauration ou même le hockey. Il y a beaucoup de contacts humains, et j'ai l'impression que quand tu vas ouvrir le premier food truck, c'est aussi un des trucs qui te motivait, c'est que tu pouvais voir des gens, causer, bouger, voir des choses différentes un peu tout le temps. C'est un de tes moteurs.
Ouais, aussi, puis de faire aussi, comme je disais, moi je faire quelque chose dans la cuisine, et puis au début on faisait plein de festivals, ce qu'on fait d'ailleurs toujours, mais voilà, de voir plein de gens, de faire la fête, oui et non, parce qu'on bosse quand même, et puis on n'ose pas trop faire les sauvages, parce qu'on rentre chaque soir en voiture.
Donc, et puis on vieillit. Hein.
On vieillit aussi, donc, donc oui, après c'est le fait de voir du monde, et puis pas d'être dans un coin tout seul qui fait aussi que ça fonctionne, puis que ça a fonctionné après le hockey, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de contacts avec le hockey. Et là, je pense que le fait d'avoir quelque chose... Moi, ce qui me plaisait, c'est de faire plaisir aux gens. Donc, quand j'ai fait les assurances, bah, tu vends quelque chose à des gens, mais tu vends, entre guillemets, quelque chose...
C'est un produit, ouais.
Du vent, entre guillemets. Puis quand tu vas chez les gens, ils ne sont pas très accueillants avec les assureurs. Donc, du coup, là, c'était les gens qui venaient chez toi puis qui te demandaient pour faire des events. Donc, ça a changé un petit peu la donne. Et puis, c'est ce qui me convenait, quoi.
Tu disais que c'était la recette de ta grand-mère. Quand tu vois l'essor du truc, parce que finalement tu pars d'un food truck et tu finis par ouvrir un truc superbe à Étagnières, bah, au départ c'est quand même la qualité de ton produit qui fait la différence, parce que si ça avait été dégueu, bah, ça n'aurait pas marché, quoi.
Ouais, exact. Ouais, donc c'était une recette, ouais, à la base de ma mère, et j'ai dû faire quelques ajustements parce que bah, voilà, il fallait faire des quantités un peu plus grandes aussi, et puis c'était une recette qui marchait depuis le début. Donc après, voilà, ça fait 8 ans, maintenant 9 ans qu'on a le même boucher. Ça fait le même temps qu'on a le même boulanger. Donc on a toujours le même fournisseur depuis le début. Et puis les gens voient aussi la qualité. Donc on montre aussi qu'on fait toujours de la qualité avec des produits de la région. On fait du tartare de ferrat, on travaille avec un poissonnier du lac aussi. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire au maximum avec des produits suisses. Et surtout de la région si on peut. Et puis les gens, c'est ce qu'ils recherchent aussi. Donc, voilà, il y a aussi une évolution des prix maintenant. On voit aussi que dans la restauration, c'est un peu plus compliqué. Et les prix augmentent, hein. Le pain augmente, la viande augmente. Et puis c'est vrai que nous, après, t'es en face du client et c'est compliqué de faire remonter les prix. Donc on a un petit peu augmenté aussi les prix. Et pour l'instant, ça n'a pas trop de conséquences par rapport au client. Mais là, je pense qu'ils voient aussi que les prix évoluent et ils sont prêts aussi à mettre un peu plus pour la viande. Après, c'est vrai que des fois, quand on reçoit deux tartines et c'est 16 francs, on se dit, bon, ben, c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Mais après, moi, j'ai aucun souci à le vendre parce que je sais d'où la viande elle vient. On est allé voir les paysans, on est allé voir le boucher, on sait enfin,
tu sais,
la traçabilité depuis le début. Donc, moi, j'ai pas de souci à vendre mes produits à ce prix-là. Et puis, ça marche. Donc, après, on adaptera quand il faudra de nouveau. Et puis, voilà.
Bah, tu te lances il y a 8 ans, un food truck, c'était la grande mode des food trucks. Et puis bah, ça s'est développé, tu as commencé à faire des events, tu as ouvert peut-être pas au bon moment ton restaurant. Est-ce que tu pensais, bah, déjà, quand tu te lances, tu n'es pas sûr que ça marche. Et puis deux, est-ce que tu pensais que ça deviendrait comme ça une marque finalement? Parce que le tartare de Reist, c'est connu quoi.
Bah écoute, tout dépend où je vais maintenant, c'est même plus Reist Locker, c'est tartare de Reist. Donc, donc tu vois l'évolution. Donc c'est vrai que maintenant, j'aurais jamais pensé que ça fonctionnerait autant. Donc voilà, c'est vrai que c'est chouette que ça marche autant. Et puis après, on essaie de regarder les pieds sur terre. Et puis on a beaucoup de demandes d'events actuellement, mais on ne peut pas tout faire non plus. Et puis le but, c'était pas de s'agrandir, de faire 15 food trucks. Donc là, on en a quand même un seulement depuis le début. Et puis on n'a pas envie d'en avoir un deuxième parce qu'on a énormément de demandes. Mais après, il faut chercher le personnel. Et puis voilà, ça, c'est pas parce qu'on est plus grand qu'on a plus d'argent aussi. Donc on est bien comme on est là actuellement. Et puis on va rester comme ça. Mais on espère que le succès reste. Quoi.
Typiquement, un soir comme ça, t'as quoi, 5 personnes dans le food truck à la Vaudoise Arena. Mm-hmm. Et combien de personnes en même temps à Étagnières?
Alors ce soir on a fermé l'étagnière, mais là au food truck on en a 5 et normalement au restaurant on a 5 et 6 personnes qui bossent. Et là en plus il y a le comptoir cette semaine, donc là on est 6 à 7 à bosser aussi au comptoir, donc on a dû chercher pas mal de staff cette semaine parce qu'on a 3 events en même temps, enfin un event, bistrot c'est pas un event, mais c'est vrai qu'on a 3 endroits différents travailler ensemble, donc il faut trouver aussi le monde derrière.
À l'époque, l'été, c'était plutôt les vacances, un peu la préparation physique. Là, t'as pas arrêté tout l'été, des festivals partout. T'as le temps de prendre des vacances.
On est parti 10 jours cet été. On a juste un petit creux au début août, entre la fin de l'estival et le début du Venoge Festival. Donc, c'est un peu les seuls moments où on peut partir quand les enfants ont congé aussi. Et on planifie peut-être une fois à Pâques ou à Noël de partir 3 semaines dans les prochaines années. Un grand voyage, mais c'est vrai qu'on essaie de partir quelques de temps en temps, un week-end ou deux à gauche à droite, mais compliqué de partir 2 semaines. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis les enfants, ils le savent aussi que la grosse période, c'est en été. Et on essaie un peu de les caser aussi pendant l'été pour que nous, on ait aussi les vacances des gamins. Donc voilà.
Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en fait, tout vient aussi de ton amour de la bonne bouffe. J'ai retrouvé un truc sur le site du LHC où tu dis que tu étais impressionné par le physique d'Andrei Bashkirov. C'était tout simplement une armoire à glace sur la glace, un grand professionnel qui ne faisait pas d'excès avec la nourriture comme je pouvais le faire.
Exactement.
En fait, c'est que tu aimes les bonnes choses aussi et que tu voulais te faire plaisir.
C'est ça. Donc moi, j'ai jamais trop été un exemple non plus quand je faisais du hockey. Hein. Enfin, oui, il fallait quand même faire attention, mais je rechigne jamais à manger une fondue un dimanche soir devant la télé dans un vieux OM Lyon ou qu'il n'y a pas eu hier soir. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours adoré la bouffe, le bon vin et tout, et puis passer des bons moments avec des amis, et puis c'est ce que j'aime le plus. Donc c'est clair que ça a aidé aussi.
On voit que le hockey est quand même professionnalisé encore un peu plus. Est-ce que tu penses que tu aurais été encore un très bon professionnel en 2023?
C'est difficile de savoir. Après, c'est vrai que si on compare quand moi j'avais 20 ans et si j'avais 20 ans maintenant, il y a eu beaucoup d'évolution, c'est clair. Après, moi j'étais quand même à 20 ans, j'étais quand même dans un club où j'avais comme entraîneur Yurzinov à l'époque à Kloten, donc c'était quand même des entraînements assez intenses. Donc oui, il y a eu des évolutions par rapport aux techniques de patinage, par rapport aux techniques de shoot aussi, mais je pense pas qu'en niveau temps d'entraînement, on s'entraînait moins à l'époque.
La nutrition, salle de force
Écoute, on faisait aussi déjà hyper gaffe. Il y avait aussi déjà des nutritionnistes, il y avait aussi la salle de force tous les jours. Donc c'est vrai que je pense que, oui, après les joueurs aussi un peu évolué, mais il me semble qu'il y a aussi un peu plus de joueurs petits qui ont réussi à percer dans le hockey. Donc il me semble que ça joue plus vite, mais il y a... je ne sais pas si je me trompe, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de charge qu'à l'époque. Quoi.
Si on résume ta carrière, en fait, bah, tu as été formé à Bienne, puis après tu as fait toute la Suisse un peu d'est en ouest. Déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu étais dans un pays bilingue et t'es allé au fin fond de la Suisse allemande. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller jeune là-bas, vivre tout seul au milieu de ce pays hostile qui est le Jüterbog?
Au milieu du CNI, c'était à Rapperswil à l'époque.
Voilà.
Donc ouais, bah, j'ai eu de la chance d'avoir pu avoir un partenaire de chambre, hein, entre guillemets, comme on dit. J'habitais avec Burkhalter, Loïc. Mm-hmm. Et on a fait les trois premières années à Rapperswil ensemble.
Ouais.
Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir un copain, un roman. Ça a certainement aidé. Mais c'est vrai, quand tu te retrouves à 18 ans dans un club où... Après, je parlais l'allemand aussi, donc c'est vrai que ça a aidé. Mmh. Et quand tu te retrouves à 18 ans dans un club professionnel de Liga, c'est pas la même chose qu'un club de Ligue B. Donc c'est vrai que ça a apporté beaucoup de... ouais, d'expérience et de maturité aussi pour un jeune. Et puis, ben, c'est clair que c'était une belle période aussi. Donc c'était mes belles années au début où j'ai vraiment flambé. Et puis, belle expérience.
T'as fait deux mondiaux M20, hein?
J'ai fait deux mondiaux et on avait gagné une médaille de bronze,
ouais,
en Finlande avec Bischer à l'époque, Riesen, Lirizzi, Von Arx. Donc ouais, c'était une belle Beauclair, on a une belle équipe là, donc c'est des beaux souvenirs.
Mm-hmm. Ensuite, t'enchaînes Kloten avec Yursinov. C'était comment quand tu vois une légende comme ça qui t'apprend à patiner? Je me rappelle quand Komutov entraînait au LHC et que personne ne comprenait ce qu'il était capable de faire. Comment tu progresses et comment tu le vis au quotidien? Parce que c'est légende, quoi.
Bah, t'as énormément de respect quand tu le vois. Hein. Donc moi j'ai eu, si tu veux, 3 ans de contrat à Rapperswil. Et la troisième année, j'avais la possibilité d'aller dans un plus grand club qui était Kloten à l'époque. Et avec les agents qui te donnent des fois pas trop des mauvaises, enfin des bonnes directions dans ta carrière, on s'était dit que c'était mieux d'aller à Kloten pour évoluer dans ma carrière, pour aller en équipe suisse. Et j'allais à Kloten. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, j'avais énormément de pression. Donc j'étais le petit jeune qui venait de Rapperswil. Rapperswil, ben toi je jouais toujours en powerplay avec Martikainen à l'époque, il y avait Richard, donc c'est vrai que c'était aussi des grandes années pour moi, donc j'étais en pleine évolution et quand j'arrive à Kloten, beaucoup d'attentes sur mes épaules. Et là aussi, les quelques premiers matchs, il me fait jouer avec Kiprouzov en arrière. Et du coup, premier bloc, il y avait Rintanen, toute cette équipe-là, et puis ben, j'ai pas trop livré la marchandise, donc c'est vrai que j'avais un peu trop de pression à cette époque-là. Et au final, j'ai fini deux, troisième bloc pour les 2 années qui suivaient. Puis après, je suis retourné à Lausanne. Mais c'est vrai qu'à Kloten, c'était une bonne et mauvaise expérience parce que c'est vrai qu'il faut... Voilà, c'était l'école russe. Et puis quand t'as 20 ans, t'as peut-être le roman qui va là-bas, t'as peut-être pas la tête à faire une école russe à l'époque.
Bon, bah, Lausanne, il y a cette descente qu'on se rappelle tous très bien. Et puis, tu restes une saison, toi, en Ligue B. Et après, je ne sais pas si tu avais le choix, mais aller à Fribourg, c'était une jolie adresse aussi pour rester en Liga, quoi. Et puis, pour faire ton métier à haut niveau, ce qui n'était plus possible ici.
Exactement.
Comment ça s'est passé à Fribourg, où t'étais bien là-bas?
Écoute, on a eu des belles années, donc c'est un petit peu l'année, moi j'ai fait 3 ans à Fribourg, c'était un petit peu le déclic de Fribourg où ils ont commencé à passer du bas de classement au milieu de classement et haut de classement, donc là c'était l'époque où on avait sorti Berne, Zurich en play-off, donc Berne était premier, on était 8e, on avait sorti Berne après 7 matchs, l'année d'après on avait sorti Zurich. Donc c'est des très bonnes années et puis là moi j'étais vraiment un défenseur défensif et puis, puis les gens m'aimaient bien parce que je me couchais dans les shoots, je me sacrifiais, c'était une belle époque et puis je garde encore des très bons souvenirs avec certains joueurs et puis c'est aussi un club de famille et puis moi j'adorais là-bas. Puis avec Lausanne, c'est les deux clubs où j'ai le plus de plaisir à jouer. Hein.
Ouais, c'est Benjamin Chavaillet qui disait dans ce même podcast que vraiment Fribourg, c'est spécial à ce niveau-là, parce que tu as ce noyau de Fribourgeois qui fait que c'est un club qui a une identité locale comme pas beaucoup d'autres.
Oui, c'est clair. Après, ils ont réussi à garder un peu cet esprit local, comme tu dis, et puis quand même à se développer niveau business. Là, on voit qu'ils sont... très bonne forme depuis quelques années là. Et puis ils ont réussi à garder cet esprit, il me semble, un peu familial qu'on a peut-être perdu au LHC ces dernières années, quoi.
Ouais. Bah ensuite tu retournes à Lausanne en Ligue B avec l'objectif de remettre ce club en haut, et comme d'habitude ça prend un peu de temps, mm-hmm. Mais il y a cet énorme souvenir de la promotion, une soirée pas taré, quoi. Une soirée. Moi, j'ai même pas osé venir à la patinoire tellement j'étais tendu. Et ce dernier match incroyable avec un gardien fou pour de la Ligue B et une super équipe aussi.
Écoute, juste après Fribourg, il y a quand même cette histoire de... J'avais aussi signé à Zurich pendant deux ans.
Ouais.
Donc, j'ai aussi eu un petit peu de peine à Zurich. Donc, après une année et demie, on a arrêté le contrat à Zurich. C'était vraiment la mafia qui est sous sa main. Donc, vraiment... ouais, que tu sois, ouais, même, tu sois au même niveau qu'un autre joueur et puis que chaque fois il suffisait moi qui passait, au bout d'un moment j'en ai un peu ras-le-bol. Et il y avait cette opportunité, j'avais signé un contrat de 3 ans à Lausanne pour faire remonter le club. Et puis je me suis dit c'était un beau challenge et effectivement là quand on a réussi à monter, donc c'était juste incroyable, on avait une équipe magnifique et puis surtout avec Gert qui avait repris cette équipe au milieu de championnat, ben, on a réussi à faire un truc incroyable et puis... Je me souviens encore de ces moments à la ligne bleue avec les frissons. Et puis le samedi, je me rappellerai toute ma vie, ça, c'était un, il y avait un samedi à Langnau, je crois que ça devait être le 5e match où il y a tout le monde qui a pris congé pour venir regarder. Et puis finalement, on avait perdu à Langnau.
Ouais.
Puis ouais, c'était des moments incroyables. Donc, ouais.
Jouer avec ton cousin, c'était un truc que tu voulais faire depuis longtemps
Ouais, c'était aussi un but qu'on avait commun avec les deux. Et puis de faire une saison ensemble, c'est dommage qu'on n'a pas pu en faire plus, mais... Déjà d'en faire une ensemble, ça a été quelque chose d'incroyable. Et puis de vivre une passion qu'on a les deux, on vient du même village. Donc c'est vrai qu'on se dit, bon, ben, y a quand même deux de Péry, les gars de Péry qui ont réussi à faire une saison ensemble à Lausanne, au LHC. Donc c'est vrai que c'est quand même un truc de malade si on regarde un peu dans cette direction-là. Quoi.
Si gamin, on t'avait dit que Julien Staudenmann deviendrait arbitre de hockey.
Écoute, je peux pas dire grand-chose parce que j'ai failli le faire aussi. Donc, donc voilà, mais là, j'ai plaisir pour lui parce qu'il est en train d'arbitrer quelques matchs de la Liga. Donc j'espère qu'il les arbitre suffisamment d'ouvriront les yeux pour qu'il puisse continuer en Liga. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il siffle en Ligue B, mais il a certainement les capacités pour aller siffler plus haut.
Toujours bien d'avoir des anciens sportifs, footballeurs, hockeyeurs... qui comprennent le jeu et qui vont sur la glace et le terrain de foot. Hein. On voit que ça fait toujours une différence aussi dans le contact avec les joueurs.
Ouais, je pense aussi un peu pas plus facile, mais je pense que les joueurs ont peut-être un peu plus de respect. Et je pense que quand on regarde maintenant, on vient de voir un mois de rugby, je pense qu'il faudrait aussi un petit peu apprendre de leur sport vis-à-vis des arbitres, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout voir non plus au hockey. Les décisions, il faut les prendre en moins d'une seconde. Et puis oui, c'est des êtres humains, ils peuvent faire des fautes. Et sans les arbitres, il n'y aurait pas de match. Donc il faut un petit peu aussi, je pense, avoir un peu plus de respect pour ces arbitres. Et on voit au rugby, ça va très bien.
Bon, on va parler un peu passion aussi. Comment est-ce que tu arrives encore à être supporter d'un club? Parce que tu as connu quand même pas mal de clubs et pas mal de romans. Mm-hmm. Est-ce que tu as des préférences ou est-ce que toi, tu t'es détaché de ça avec le temps?
Non, je suis quand même supporter en premier lieu de Lausanne. Hein, donc c'est vrai qu'on vient tout le temps ici, mes enfants jouent là, moi j'ai un vécu au club. Donc c'est clair que je regarde Lausanne en premier, après toujours un peu Fribourg. Et l'année passée, j'ai adoré aller voir les finales à Bienne parce que je viens de là aussi.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'après, je regarde un petit peu moins ce qui se passe au bout du lac. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est Bienne, d'abord Lausanne et puis Fribourg et Bienne. Mm-hmm. Donc c'est un petit peu les trois clubs.
Comment ils se sont mis au hockey, les gamins? C'est eux qu'on choisit?
Alors écoute, c'est eux qu'on choisit. Ils faisaient du foot aussi en même temps.
Ouais.
Et le tout petit fait encore du foot maintenant. On a dû arrêter un sport avec le grand, donc moi je pensais qu'il faisait du hockey à cause de moi et tout. On lui a dit finalement, choisis un sport sans avoir de pression par rapport à moi. Hein. Donc il m'a clairement dit, arrête le hockey, enfin, nous ça nous arrangerait parce que cotisations c'est un peu cher et tout. Et puis il a choisi le hockey, donc après moi je suis jamais allé un mercredi après-midi avec lui sur la glace, un samedi matin sur le comment choisir ou autre, donc je ne les ai jamais forcés. Je pense qu'ils ont vu que quelques vidéos où je jouais, ça les motive.
C'est pas celle où tu te battais, non?
Ouais, j'aurais montré aussi, et puis ils ont déjà vu, donc. Après, ils aiment ça, ils adorent le contact avec leurs copains, et puis voilà, après, s'ils veulent faire un autre sport, moi, je suis OK, parce que je sais très bien ce que ça engendre derrière, niveau frais, niveau temps. Donc là, on est en train de le voir déjà avec mon grand. Il est en U13, donc il a 10 ans, hein. Il s'entraîne quand même 4 fois par semaine, plus les matchs, donc c'est vrai que c'était impossible de faire un deuxième sport à côté. Donc Voilà, maintenant le deuxième commence aussi avec ses entraînements, donc ça fait beaucoup. Et puis ça m'arrangerait qu'il fasse du foot, mais après, on
va pas aller. L'intérêt restaurateur, sponsor principal est taxi.
Exactement, donc c'est vrai, quand on voit nos parents, ce qu'ils avaient fait pour nous à l'époque, on se dit là, les trajets c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup d'organisation. Et puis, ouais, ça demande quand même pas mal de structure et d'organisation à la maison. Ouais.
Pour finir, on est obligé de parler de ta passion de l'OM. D'où ça vient, pourquoi là aussi ça fait des déplacements et ça coûte hein.
Écoute, ouais, ça fait des sacrés déplacements et puis moi j'adore ça depuis. De où c'est venu, je pense que c'était mon frère qui avait commencé parce qu'il est plus vieux que moi, donc c'est vrai que moi j'ai un peu suivi le mouvement, mais c'est vrai que ça fait depuis presque 25 ans maintenant que je suis supporter, donc ça fait même avant, hein, on descendait à l'époque, tu avais des Marseille-Paris. Il y avait encore des fusées qui se lançaient l'un contre l'autre. Et puis, mais c'est vrai, quand on va, à l'époque, on allait faire les allers-retours. Donc on descendait le samedi soir et puis on revenait après le match. Le dimanche, c'est la même chose. Et là, maintenant, vu qu'on est un peu plus vieux, on dort quand même une nuit sur place pour un petit peu récupérer. Mais on ne fait plus les sauvages comme à l'époque. Mais on se descend quand même une, deux fois par année, voire trois. Donc c'est toujours une passion. Je regarde tous les matchs. Enfin, j'essaie de regarder tous les matchs. Et puis voilà. Donc après, même s'ils perdent, on est toujours derrière. C'est une passion. Et puis voilà.
On n'arrive pas à se l'enlever. Hein.
Non, c'est ça. Nous, on n'arrive pas à nous enlever ça. J'arrive pas. C'est vraiment une passion depuis le début. Mes enfants sont aussi un peu dedans maintenant. Et puis, ils adorent venir au match. Donc, Evan, il est déjà allé 5-4 fois au match à Marseille. Donc c'est vrai que. Voilà, moi, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, je suis toujours derrière. Après, on attend toujours qu'il y ait une deuxième étoile sur ce maillot. Mais on en a au moins une.
C'est quand même pas facile dans la vie quand tu supportes l'OM, le LHC et compagnie, c'est beaucoup de frustration.
Hein. Ouais, c'est un peu toujours la même histoire. Hein. Donc on commence le championnat, on est tout feu tout flamme avec une nouvelle équipe, on attend des podiums, on attend des choses belles, mais au final il n'y a pas grand chose. Mais bon, enfin, on espère toujours. Et puis,
c'est ça qu'il faut expliquer à ceux qui sont trop facilement fans du PSG ou du Barça, c'est que nous quand on gagne un truc, on est content pour 10 ans.
C'est ça. Et en plus, moi, quand ils avaient gagné le championnat là, en 2010, j'étais en bas, donc j'ai encore des photos. J'étais avec Julien Sprunger, d'ailleurs, donc on a encore des photos de cette époque-là. Mais c'est vrai que tu te dis, voilà, on se satisfait de temps en temps un trophée et puis on ne vient pas pleurnicher parce qu'on arrive à gagner des trophées une fois tous les 20 ans, puis on est content. Et puis on n'a pas besoin d'avoir des milliards pour rien gagner.
Même une Coupe de la Ligue, on prend. Même si ça n'existe plus.
Exact.
Bon. Dernière question, qu'est-ce qui est le plus fatigant ? Est-ce que c'est un match à Rapperswil un mardi soir quand tu te fais taper dessus par des grands Canadiens ou est-ce que c'est une soirée de festival où tu finis de faire des tartares à 2h du mat ?
Ouais, c'est pas le même physique. Donc après, quand tu enchaînes dans les festivals, c'est vrai que tu enchaînes plusieurs jours de suite. Quand tu fais un match, c'est quand même un match et puis tu rentres. Mais au final, c'est un peu la même fatigue. Et puis moi, j'ai pas trop besoin de sommeil, donc ça va, je gère assez bien à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on verra. Hein, c'est bon. Mais les deux sont fatigants. Et puis c'est vrai que la période d'été, c'est assez rude parce qu'il y a beaucoup de festivals. Mais sinon, c'est difficile de choisir l'un ou l'autre parce que c'est les deux qui sont assez fatigants.
Il y a des plaisirs différents, mais de plaisirs dans les deux.
Écoute, il y a moins d'adrénaline. C'est un peu ce qui manque. Ouais. Par rapport au hockey, parce que l'adrénaline du hockey...
Que tu retrouves à l'OM, du coup.
Que je retrouve à l'OM, ouais. Mais je ne retrouve pas ça dans mon job. Après, je retrouve différemment quand on bosse dans un festival et puis qu'on bosse depuis 7h à 10h non-stop. C'est un petit peu ce côté adrénaline que j'ai, qui manque dans un boulot, en guillemets, normal que tu avais avant de l'hockey. Donc, je retrouve un petit peu par rapport à ça. Donc, c'est vrai que...